Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir Babette.
Mohamed, votre story du jour.
J'ai assisté à une rencontre merveilleuse cet après-midi. C'était au Sénat, entre des écoliers et Robert Badinter. Entre des enfants de 10 ans et Robert Badinter, 94 ans, avec un thème au cœur de tous les échanges, la laïcité. Ça veut dire quoi, la laïcité? J'ai posé la question.
Et c'est l'un des enjeux aussi de la campagne des législatives. Patrick, votre édito ce soir.
Vous avez déjà changé une bougie dans votre voiture?
Non.
Fait une vidange ou...
Non.
Là, c'est un Delco, des choses comme
non,
ça.
Non, j'ai déjà eu des accidents et perdu des points.
Vous avez déjà changé une bougie dans votre voiture.
Ouais. J'ai même changé un joint de culasse, si vous voulez, sur ma première voiture.
Et on a les images.
Cette phrase est improbable. Vous avez donc changé un joint de culasse?
Absolument. Tout ça pour vous dire que le moteur à explosion, le moteur à combustion qui a... alimenter la culture, l'industrie de notre continent depuis plus d'un siècle, bah, c'est fini. Non, après, papa. Daimler-Benz,
voilà, c'est tout à l'électrique.
C'est fini. 2035, tout électrique.
2035.
2035, tout électrique pour les ventes de voitures neuves.
Et je sais recharger une batterie, c'est ça la bonne nouvelle.
Ah, ça,
on en parle avec Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui a donc entamé un deuxième mandat aux côtés d'Emmanuel Macron. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci de votre présence ce soir. Mathieu, dans le 5 sur 5.
Moi aussi, je vais vous emmener au Sénat. C'est moins merveilleux que monsieur Badinter. On va revenir sur les événements du Stade de France et les violences qui ont émaillé la finale de la Ligue des Champions. Moins merveilleux, mais instructif, le préfet Didier Lallement qui reconnaît un échec.
Dans le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Pierre, votre œil.
Moi, je vous emmènerai visiter une expo photo qui se tient en ce moment à Paris. C'est tout un programme puisqu'elle s'appelle Chansons d'amour, Love Songs. On la visitera ensemble.
Ah, et on adore visiter des expositions à vos côtés.
Quand ça parle d'amour.
Cher Pierre, avez-vous déjà subi l'humour des humoristes de France Inter, Bruno Le Maire?
Bien sûr.
Bien sûr.
Oui.
En riant à chaque fois?
Toujours.
Eh bien, ils sont nos invités ce soir.
Bien. C'est une bonne nouvelle.
Et ils ne plaisantent pas avec l'humour. C'est le titre de ce spectacle qui réunis sur scène au Théâtre de la Renaissance, Aymeric Lomprey, Tanguy Pastureau, Daniel Morin, entre autres ces humoristes de France Inter qu'on traite souvent de gauchistes. Ils nous diront si c'est un mythe ou une réalité. Ils sont nos invités du dîner après 20h, avec également Daniel Chic, journaliste, écrivain. Il sort son premier roman, Le Grand Baobab Bleu, et on se souvient de son coup de gueule contre la façon dont son père était traité dans un EHPAD. Voilà pour nos invités du dîner, préparé ce soir par une chef mexicaine qu'on est très heureux d'accueillir, Lydia González Aguilar, chef du restaurant Itacaté.
Bonsoir.
C'est dans le premier arrondissement de Paris. Bonsoir, chef. Au menu ce soir?
Au menu ce soir, on aura un piment farci de crevettes accompagné d'avocat et d'haricots. C'est une inspiration mexicaine.
Merci beaucoup. À tout à l'heure pour ce dîner mexicain. Tout de suite, l'édito épicé de Patrick Cohen. Dans moins de 15 ans, la bagnole, c'est fini.
Voilà, vote historique du Parlement européen. En 2035, tous les véhicules neufs vendus sur le continent ne devront plus émettre de CO2 zéro émission, ce qui revient à interdire complètement et définitivement les moteurs à essence, les diesels et même les véhicules hybrides en plein boom actuellement. Les eurodéputés de droite qui voulaient les prolonger jusqu'en 2040 ainsi que les biocarburants ont été battus de justesse. 2035 marquera donc l'arrêt de mort des cylindres, des soupapes et des pistons sur le continent qui les a vus naître il y a 137 ans et qui, il faut le dire, ont fait vibrer des générations de passionnés, conducteurs, spectateurs, industriels, mécaniciens, historiques, vraiment. Le terme est souvent galvaudé, mais là, c'est le cas.
Ça concernera tous les véhicules?
Les voitures particulières et les camionnettes légères, donc pas les motos, les camions, les autocars, les tracteurs et seulement les véhicules neufs. pas les voitures d'occasion dont le marché devrait être florissant, ni certains bolides de luxe qui auront un sursis grâce à un amendement déposé par des députés italiens dit amendement Ferrari. Les constructeurs qui vendent moins de 1000 voitures neuves par an ne seront pas soumis à l'interdiction des moteurs thermiques, et ceux qui vendent entre 1000 et 10 000 pourront en vendre un an de plus jusqu'en 2036. À votre avis, combien de Ferrari sont vendus chaque année dans le monde ? 9000, à peu près 9, environ 9000, c'est-à-dire pile dans le créneau,
dans la fourchette. Bah oui, ça a été bien pensé.
Ils sont doués, les Italiens. Ils sont doués, les Italiens.
Ah oui.
Voilà.
Bah, sinon, ça ne s'appellerait pas l'amendement Ferrari. Certes. L'industrie automobile a donc 13 ans pour tout changer.
Moins que ça, puisque la plupart des grands constructeurs Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen ont annoncé que leurs gammes seront 100% électriques dès 2030. C'est d'abord un énorme défi social, parce que fabriquer un moteur électrique requiert 2 à 3 fois de moins de main-d'œuvre et demande moins d'entretien, ce qui ne fait pas non plus l'affaire des garagistes. Il y aura donc des dizaines de milliers d'emplois détruits, 100 à 150 000 en France, d'après la filière, près de 20% des effectifs. Ensuite, c'est un défi industriel, et sur ce plan-là, la Chine a pris 20 ans d'avance. Aujourd'hui, près des 3/4 des capacités de production de batteries électriques sont en Chine, et plus de la moitié des capacités de transformation du lithium, du cobalt et du graphite, matières premières utilisées pour les batteries.
Et pour l'automobiliste consommateur ?
C'est pas gagné non plus. Une voiture électrique coûte encore 50% plus cher qu'un véhicule thermique aujourd'hui. Écart qui va forcément se réduire avec la montée en production, la production de masse. Le groupe Stellantis estimait il y a quelques mois que la parité pourrait être atteinte entre 2025 et 2030, c'est-à-dire des prix à peu près équivalents entre thermique et électrique, mais c'était avant l'explosion des prix des matières premières. Le lithium s'envole, les cours du cobalt et du nickel ont doublé en un an. Qui peut dire combien coûtera un véhicule électrique en 2035 quand il n'y aura plus que cela sur le marché ? Enfin, il faudra équiper toute l'Europe de bornes de recharge en ville et sur route. En France, on estime qu'il en faudrait 1 million. On en est aujourd'hui à peine à 60 000.
Mais l'environnement en sortira gagnant ?
Alors, pour la pollution en ville, c'est certain. Pour le reste, c'est discutable, et d'ailleurs discuté, à cause d'abord de ces terres rares, on vient d'en parler, qu'il faut aller chercher, cobalt et lithium, ce qui n'est pas neutre pour l'environnement, à cause de l'énergie nécessaire pour fabriquer ces véhicules électriques. Avant même de parcourir le premier kilomètre, une voiture électrique toute neuve a déjà brûlé 8 tonnes de CO2 contre un peu plus de 5 pour un véhicule thermique. Et enfin, pour que la voiture soit réellement zéro émission, il faut que l'électricité soit décarbonée. Si elle sort d'une centrale à charbon, ce n'était pas la peine.
Une décision historique, mais pas forcément une bonne nouvelle, d'après ce que dit Patrick Cohen. Les emplois potentiellement détruits.
D'abord, je suis parfaitement d'accord avec tout ce qu'a dit Patrick Cohen. Ça m'arrive rarement, mais là, c'est tout à fait le cas. Je reprendrai chacun de ces mots. C'est-à-dire que c'est une véritable révolution. Mais c'est une révolution qui est positive pour la France, positive pour l'Europe, parce que ça va nous obliger à accompagner la transformation de l'industrie automobile. Ça va nous amener à avoir des véhicules qui seront plus propres, surtout si on fait le recyclage des batteries. Des véhicules qui auront une durée de vie longue, qui vont demander moins d'entretien et qui seront beaucoup moins coûteux à l'usage. Je pense que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui font le plein avec un carburant à plus de 2 euros, ils seront satisfaits de se dire peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, on aura enfin accès à ces véhicules électriques. Après, pour nous, puissance publique, ça va nous demander des travaux considérables. Dès demain, je verrai Luca De Meo, le président de Renault, le président de Stellantis, M. Tavares. Je verrai l'ensemble de la filière automobile, les sous-traitants, avec la ministre chargée de l'énergie, Agnès Pannier-Runacher, pour qu'on regarde comment est-ce qu'on continue à accompagner le secteur. D'abord, il y a tous ceux qui vont voir leur emploi disparaître ou se réduire. Je pense par exemple aux fonderies. 12 000 ouvriers qui travaillent dans les fonderies. Il faut les accompagner, les former pour qu'ils puissent retrouver un emploi dans cette filière industrielle. Mmh. Ensuite, il faut accélérer la production de capacités, par exemple sur les batteries électriques.
Bah oui.
On a déjà construit 3 usines. Il faut qu'on continue à construire des usines de batteries électriques de façon à ce que nos véhicules électriques soient produits en France, au maximum en France. Je suis ministre de la souveraineté industrielle, ça veut dire que les véhicules doivent être réalisés en France.
Installer des bornes de charge aussi.
Et puis, bien entendu, installer des bornes de recharge. Mmh. Et puis, Patrick Cohen a soulevé un point majeur, c'est qu'il faut produire beaucoup d'électricité. Oui. ça justifie les choix qui ont été faits par le président de la République de réinvestir dans le nucléaire, c'est-à-dire dans de l'énergie décarbonée, parce qu'une voiture électrique qui va être produite par des centrales à charbon, ça n'a pas grand intérêt. Il faut de l'électricité décarbonée, c'est le nucléaire. Et puis, c'est aussi l'hydrogène qui est très prometteur et qui pourra peut-être prendre le relais par la suite.
Il y aura, après ce vote du Parlement européen, des discussions avec les États membres. Est-ce que la France tiendra sur ce calendrier ou est-ce que, comme ça a été dit dans des discussions préalables, le pays, votre gouvernement, se prononcera plutôt pour un délai un peu plus long, je crois que vous teniez pour 2040, plutôt que 2035.
Je vais vous dire, 2035, c'est le choix qui a été fait par les parlementaires. Et je pense que quand on se fixe une ambition environnementale, j'ai dit que le ministère de l'Économie et des Finances désormais devait porter cette ambition environnementale, plutôt que de se mettre dans la position de celui qui bloque, qui ratiocine, qui dit ça va pas être possible, je préfère réunir l'ensemble des acteurs de la filière, se dire comment est-ce qu'on fait pour y arriver, oui. De quoi est-ce que vous avez besoin? Il faut peut-être une clause de revoyure, en se disant où est-ce qu'on en est d'ici 5 ans ou 7 ans.
Si on sait à l'avance qu'on va vers le chaos et que...
Exactement. C'est pour ça qu'on peut avoir une clause de revoyure. La deuxième chose, c'est qu'il y a des investissements colossaux à faire. Je ne suis pas sûr que les industriels automobiles, et en particulier les sous-traitants, puissent les faire tout seuls. Moi, j'aimerais que l'État français puisse apporter une aide financière, on l'a prévu, à l'ensemble de la filière automobile, les grands industriels, mais surtout les sous-traitants qui sont derrière, pour les accompagner et accompagner, par exemple, l'ensemble des fonderies qui vont devoir évoluer. Donc je préfère négocier les conditions pour parvenir à cet objectif plutôt que de marc-bouter contre un objectif qui est un bel objectif environnemental.
Une décision qui est prise au moment où on se rend compte qu'il est très compliqué de contenir l'augmentation des prix de l'électricité, justement. Est-ce qu'au final, vraiment, il sera moins cher de faire de recharger la batterie de son véhicule thermique plutôt que de faire le plein d'essence?
Ah ben, je pense que c'est déjà le cas. Oui, c'est une certitude. Quand on voit aujourd'hui la manière dont évoluent les prix du pétrole, il y a de moins en moins de pétrole. Il est encore moins disponible à cause de la crise actuelle en Ukraine. Les prix sont en train de flamber à des prix qui sont vertigineux et qui posent des difficultés considérables à nos compatriotes. Donc, accélérer la transition vers l'électrique, c'est une bonne chose, mais à condition, et c'est là toute la cohérence de la politique que nous menons, que nous augmentions la production d'électricité, c'est les centrales nucléaires et c'est le développement des énergies renouvelables. Il y a une deuxième condition aussi pour laquelle nous allons continuer à nous battre, c'est qu'on déconnecte le prix de l'électricité du prix du gaz. Vous savez que dans le marché européen aujourd'hui, le prix de l'électricité dépend du prix des énergies fossiles et du prix du gaz. C'est une aberration économique et une aberration environnementale. Je la combats depuis plusieurs mois et j'ai bon espoir qu'on finisse par arriver à déconnecter ces deux prix.
Bon, pour l'instant, les Français conduisent majoritairement des voitures à essence ou diesel. Ils ont l'œil rivé sur le prix à la pompe. La remise de 18 centimes sur le prix de l'essence va être maintenue jusqu'à fin août. Est-ce qu'elle va baisser ensuite progressivement et à quel rythme?
Je pense qu'il faut qu'elle soit, à partir de la rentrée de septembre, mieux ciblée. On ne va pas retirer les 18 centimes dès le 1er septembre. Il faut faire les choses progressivement.
Mais si bien, parce que ce n'est pas juste cette mesure globale qui concerne tout le monde.
Non, ce n'est pas juste. Et puis surtout, je le dis en ayant discuté avec des ouvriers, des salariés, il n'y a pas très longtemps, par exemple en Alsace, à Colmar, qui me disaient « Mais nous, monsieur le maire, on ne va plus venir travailler. On adore notre travail, mais on habite à 60 km. Et donc maintenant, ça nous coûte trop cher de venir travailler. » Et vous avez des millions de nos compatriotes qui sont salariés avec une entreprise qui est loin de leur domicile. C'est des aides-soignantes qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture. Qui vous disent, moi, travailler, ça me coûte trop cher. Donc je préfère qu'on ait une aide qui soit plus ciblée sur toutes ces Françaises et tous ces Français qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture.
Donc on arrête en septembre les 18 centimes pour tout le monde et on cible.
En tout cas, c'est ma proposition, c'est pas encore une décision. Mais je souhaiterais que progressivement, on substitue à cette aide pour tout le monde de 18 centimes, qui vous fait à peu près 10 euros par plein, une aide beaucoup plus généreuse, plus massive, sur tous ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule pour aller travailler. Parce qu'aujourd'hui, même avec cette aide-là, j'en ai parfaitement conscience, ils ne s'en sortent pas.
Plus généreuse, ce serait quoi?
Je ne vais pas vous donner de chiffres, mais c'est plus que 10 euros par plein. Et ça permettrait de couvrir une grande partie du surcoût que représente aujourd'hui l'augmentation des prix de l'essence.
Au-delà de l'énergie, les Français sont de plus en plus nombreux à faire très attention en faisant leurs courses quotidiennes et ils sont de plus en plus nombreux à pousser la porte des enseignes bon marché. Iban Raïs et Anaïs Recouli sont allés à la rencontre de consommateurs, vous allez l'entendre, qui comptent chaque centime.
Et aujourd'hui, je vais me prendre du citron, des oranges, des fraises.
Ils sont moins chers que chez un primeur.
Ah oui, c'est beaucoup moins cher.
On retrouve tout ce qu'on peut retrouver à Carrefour ou à Auchan, hein.
Mais moins cher.
Mais moins cher.
Et avant, je faisais mes courses pour 80-90, maintenant ça monte à plus de 100.
Pour les mêmes produits ?
Pour les mêmes produits, oui.
Vous sentez qu'il y a de moins en moins dans le porte-monnaie à chaque fin de mois ?
Ah non, mais c'est une catastrophe.
On ne peut pas se permettre de faire des dépenses imprévues.
Et je ne me permets plus rien, en fait. Et même des week-ends, des fois, vous restez chez vous, hein, parce que voilà, vous n'avez rien.
Montrez-nous.
On en a pour 13,74 euros. Donc ça va. J'ai des fruits pour quand même 4-5 jours. Hein.
On est vraiment... On voit que le calcul est, à, est très détaillé, évidemment, au centime près. La NUPES propose un blocage des prix des produits de première nécessité. Vous êtes contre. Vous nous expliquez de nouveau pourquoi. C'est une mauvaise solution.
C'est une mauvaise solution parce que ça ne marchera pas. C'est-à-dire que les prix sont fixés librement en France et le ministre de l'Économie et des Finances n'a pas la possibilité de bloquer des prix qui rémunèrent...
C'est dans le code du commerce.
...qui rémunèrent des producteurs. Enfin, n'oublions pas que derrière les agriculteurs, il y a des producteurs qui, eux, vont dire bah, « Nous aussi, la vie est dure. » Donc on a besoin d'être correctement payé pour les produits que nous vendons. En revanche, je peux vous garantir que depuis que le président de la République m'a confirmé dans mes fonctions, ma préoccupation matin, midi et soir, c'est la protection des Français contre l'inflation. On va maintenir gel du prix du gaz, plafonnement des prix de l'électricité, et j'ai parlé de la remise sur les carburants. Nous allons indexer les retraites pour que les retraités qui ont leur pension de retraite et qui ne peuvent pas travailler plus ou faire des heures sup ne soient pas perdants et ne soient pas pris à la gorge par l'augmentation des prix. Je travaille aussi sur l'indice des loyers, parce que l'indice des loyers aujourd'hui, dès cet été, pourrait augmenter de plus de 5%. Pour tous les millions de locataires français, c'est trop. Donc j'ai réuni tous les bailleurs et je leur ai dit, écoutez, il faut qu'on trouve une solution ensemble pour que vous puissiez avoir un indice des loyers qui soit moins élevé et qui soit supportable pour les locataires. Nous allons travailler aussi avec la grande distribution, avec le ministre de l'Agriculture, pour voir ce qui peut être fait sur les prix alimentaires. Secteur d'activité par secteur d'activité, je veux que nous menions cette bataille collectivement, pour que l'augmentation des prix soit la mieux maîtrisée possible. La réalité, c'est que cette inflation, elle ne vient pas de France, elle ne vient pas d'une surchauffe économique, elle vient de l'extérieur. Elle vient de l'augmentation des prix de l'énergie extérieure. Mais il faut qu'on se donne les moyens de la combattre à l'intérieur. Aujourd'hui, on a un niveau d'inflation qui est le plus faible des pays de la zone euro. Le pic inflationniste est là. Il va durer. Il va durer encore quelques mois. Je ne vais pas vous dire que ça va baisser tout de suite. Et je souhaite qu'à partir de 2023, avec l'action de la Banque centrale, avec l'action des autres États européens, on retrouve un niveau d'inflation plus raisonnable. Mais je veux laisser aucune ambiguïté sur le sujet. Le pic inflationniste est là. Et il va durer encore quelques semaines et quelques mois. Il justifie la mobilisation totale du gouvernement.
Et au-delà de la mobilisation, Elisabeth Borne a annoncé la possibilité d'une aide financière pour
à la rentrée. Il y a l'allocation de rentrée scolaire. Il y aura une aide spécifique à la rentrée qui va aider justement tous ceux qui aujourd'hui n'arrivent plus à remplir correctement leur panier alimentaire. Enfin, on est dans une grande puissance économique. Il est légitime, juste, nécessaire d'aider ceux qui sont les plus démunis à se nourrir correctement.
Toutes ces annonces interviennent à 4 jours du premier tour des élections législatives, ce qui fait dire au quotidien L'Opinion. Macron ouvre les vannes en ajoutant « l'argent magique continue de couler à flot ». Le sujet du financement n'est jamais évoqué, ce dont s'est défendu ce matin le chef de l'État en déplacement dans le Tarn.
Je vous le dis ici avec beaucoup de clarté, il n'y a pas d'argent magique. Et donc que les projets qui seront présentés dans quelques jours, et dès le 12, soient clairs. Qui n'explique pas comment il le finance ? Le finance par des impôts cachés ou par une dette qui nous fragilisera encore davantage. Et qui ne le finance pas tout en supprimant de l'activité économique est un programme d'impôts massifs à venir.
Emmanuel Macron promet, lui, ni impôts ni dettes, mais un allongement du durée du travail et un pari sur la croissance. Sauf que la réforme des retraites est à négocier, elle n'est pas encore instaurée et que la Banque mondiale a revu à la baisse les prévisions de croissance. Ça fait beaucoup de si, non ?
Mais c'est des si auxquels nous apporterons des réponses. Simplement, cette politique contre l'inflation, on ne se singularise pas en Europe, nous, Français, en prenant ces décisions. Quand il y a eu la crise du Covid, tout le monde a protégé ses salariés et ses entreprises. C'était une décision européenne collective. Face à l'inflation, c'est aussi une décision européenne collective. Moi, j'ai vu tout à l'heure mon homologue italien. Il a pris des décisions pour protéger les Italiens. Les Britanniques ont fait la même chose, les Allemands ont fait la même chose.
C'est grâce à ce que l'inflation est contenue.
C'est grâce à ce que nous avons fait sur l'énergie, parce que nous l'avons fait plus tôt que les autres et plus massivement que les autres, que nous avons un niveau d'inflation plus faible. Mais n'est pas une singularité. Tous les autres pays européens savent parfaitement que socialement, c'est insupportable. L'inflation est insupportable. Et insupportable pour les plus modestes. L'inflation, c'est un impôt sur les pauvres. Donc, ce n'est pas possible de laisser filer l'inflation sans protéger les gens. Mais je pense que ce serait bien que nous posions toute l'équation économique du quinquennat. Il y a d'un côté la protection contre l'inflation, le pic est là, on vous protège, ça coûte plusieurs dizaines de milliards d'euros. Il faut, dans le même temps, qu'on investisse dans l'école, dans l'hôpital, dans les énergies renouvelables, dans la compétitivité de nos entreprises pour réindustrialiser, donc des dépenses supplémentaires. Et troisième morceau de l'équation, qui se complique, il faut aussi rétablir les finances publiques pour revenir, c'est l'engagement du président de la République, sous les 3% de déficit en 2027, et commencer à réduire la dette publique en 2026.
En réduisant
voilà
les impôts.
Voilà ma feuille de route. Donc, protéger, investir, revenir à des finances publiques bien tenues.
Travailler plus.
Mais voilà.
Bien sûr. Bah, vous me retirez les mots de la bouche.
S'il n'y a pas d'argent magique, il faut travailler plus.
Mais non, comme il n'y a pas d'argent magique, tous ceux qui vous promettent, comme M. Mélenchon, toujours plus de dépenses publiques, sans produire de richesses, bah, à la fin, c'est quoi? C'est soit la ruine du pays, soit la ruine des Français par des impôts et des taxes supplémentaires. Nous avons le courage de dire que la seule façon de redistribuer des richesses, c'est d'en produire davantage. Et pour en produire davantage, il faut que, dès 2023, collectivement, nous travaillions plus. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire aller au plein emploi, c'est pas arrivé depuis un demi-siècle. Depuis un demi-siècle, la France n'a pas connu le plein emploi. Moi, j'ai la conviction profonde que le jour où la France reviendra au plein emploi, les choses iront beaucoup mieux dans l'esprit de beaucoup de nos compatriotes, parce que ça nous donnera une sécurité collective. Et puis l'autre condition, c'est effectivement faire une réforme des retraites qui sera une incitation à travailler plus longtemps, réforme qui doit être juste, qui doit tenir compte de l'âge auquel vous êtes rentré dans la vie active, de la pénibilité de votre activité, mais qui nous permettra tous collectivement de travailler plus. Ce n'est pas évident de dire cela. Je sais que beaucoup de Français sont inquiets. On le fera progressivement, on le fera après du dialogue, après de la concertation, mais au moins ça vous garantit une chose, vos impôts n'augmenteront pas.
On a bien entendu dans la voix du chef d'État, de chef de l'État, une critique très directe des programmes de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen qui ne sont pas financés. Selon lui, la NUP, voilà, qui devance d'un point ensemble dans les intentions de vote, avec 28% selon Ipsos ce matin, ce qui n'a pas échappé à une jeune Française qui n'est même pas en âge de voter.
J'espère que tu as gagné.
Là, moi, j'ai gagné. Maintenant, il faut que je travaille bien.
Monsieur Macron. Arrête-nous, Macron, t'es le meilleur.
Jean-Luc Mélenchon.
Ça le mérite d'être clair.
Oui.
Ça pose le débat. Oui.
Ça pose le débat simplement, mais clairement.
Jean-Luc Mélenchon qui conclut que c'est la panique à bord en Macronie. Lui en tête des sondages, que ça provoque, ça suscite la panique à bord en Macronie. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron s'est enfin décidé à faire campagne.
Il n'y a aucune panique, mais il y a de la gravité. Parce que dans ces élections législatives, contrairement à beaucoup d'élections qu'on a connues, ce ne sont pas des nuances entre les programmes. Au programme du Parti socialiste, de l'UMP à l'époque, il y avait des nuances. Mais ce n'était pas deux destins différents pour la France. Or là, c'est vraiment deux destins différents pour la France. Quand Jean-Luc Mélenchon nous explique qu'il ne va pas rembourser la dette française, croyez-moi, c'est un autre destin pour la France en Europe. Quand il dit qu'il faut travailler moins, c'est derrière une augmentation massive des impôts et des taxes. Quand il dit que la première décision qu'il prendra, c'est abolir la loi contre le séparatisme, bah, on va tout droit vers le communautarisme.
Donc il faut voter contre Mélenchon et pas pour Emmanuel Macron.
Non, il faut voter pour ce que nous proposons, c'est-à-dire une France qui travaille, qui refait sa reconquête industrielle qui me paraît indispensable, qui gagne en prospérité, qui valorise le travail et ceux qui travaillent, qui garantit l'unité de la nation autour du principe de laïcité dont on parlera tout à l'heure et qui joue toute sa partie en Europe avec ses partenaires européens. Mais c'est pour la première fois depuis très longtemps deux directions différentes qui sont proposées au choix des électeurs.
Mais on a l'impression qu'il n'y a plus que le ressort du vote utile qui est utilisé dans les arguments politiques. On a agité l'épouvantail Marine Le Pen pendant les élections présidentielles. Maintenant, vous menacez, vous présentez Mélenchon comme le Chavez gaulois. Vous pensez que ça va marcher?
Je pense que c'est toujours bien de décrire les gens comme ils sont. Chavez gaulois, ça veut dire quoi? Ça veut dire un mélange de très grand autoritarisme qu'il y a chez Jean-Luc Mélenchon et des recettes économiques qui se sont soldées à chaque fois par des désastres au Venezuela, en Grèce ou ailleurs. Mais moi, ce que je voudrais, c'est porter effectivement le projet qui a été celui du président de la République, parce que je le crois bon pour notre pays. Je pense que c'est bien que chacun ait un emploi dans notre pays. Je pense que c'est bien que la personne qui travaille puisse vivre dignement de son travail et qu'on ne lui prenne pas tout son argent par des impôts et par des taxes. Je pense que c'est essentiel que la France, qui a toujours été depuis des siècles une très grande nation européenne, qui s'est construite avec les autres nations européennes, reste une grande nation européenne et n'aille pas faire un bras d'honneur à ses partenaires européens, comme le propose Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il est essentiel que l'énergie nucléaire, on vient d'en parler, enfin Jean-Luc Mélenchon propose la sortie du nucléaire. Donc comment voulez-vous faire fonctionner vos véhicules électriques? Comment voulez-vous réussir la transition énergétique si vous n'avez plus d'énergie décarbonée en France? Donc je le dis avec gravité, mais aussi avec enthousiasme pour notre projet est le meilleur pour le
mais
pays.
Mais tout cela, vous l'avez dit depuis des mois, parce qu'on suit quand même une campagne présidentielle où tout cela a été débattu, et vous n'en avez pas moins 40 à 45% de Français, d'électeurs, selon les sondages, qui souhaitent que la gauche l'emporte, ait une majorité absolue au Parlement, et que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre. Vous ne vous attendiez pas à cela en démarrant cette campagne législative, Bruno Le Maire?
D'abord, nous verrons, Patrick Cohen, quel sera le choix des Français le 12 et le 19 juin. Donc moi, je suis confiant sur le fait que nous aurons une majorité pour le président de la République. Après, je pense qu'il faut, y compris dans les tout derniers jours, y compris dans l'entre-deux-tours, faire beaucoup de politique, c'est-à-dire de la politique au sens noble du terme. C'est-à-dire expliquer nos projets pour le pays. Oui, ce que je viens de vous dire sur...
Pas fait beaucoup avant, quoi.
Ben, on peut toujours le faire plus.
Bah, oui, mais
on peut toujours
là,
le faire mieux.
Il y a eu comme un trou d'air.
Il n'est jamais trop tard pour faire bien. Je rappelle malgré tout que le président de la République a gagné largement les élections présidentielles. Donc c'est bien la preuve qu'il a le soutien d'une majorité des Français.
Et ni maintenant, lui, ni les membres de son gouvernement.
Enfin, je pense avoir fait campagne, beaucoup, avoir m'être déplacé. Je pense que beaucoup d'autres ministres l'ont fait. Maintenant, on peut faire plus. On peut faire mieux, il faut le faire avec beaucoup de cœur à l'ouvrage, parce que ce que nous portons est bon pour le pays. Donc même s'il ne reste que 2 jours avant le premier tour, utilisons ces 2 jours. Et après, il y a une semaine entre les 2 tours qui va être une semaine décisive. Et bien là, faisons-nous plaisir. Faisons de la politique. La politique, c'est beau. C'est l'avenir de son pays, des enfants que l'on vient de voir là. Il faut juste se demander, mais qu'est-ce qu'on veut pour eux? Bon. Est-ce qu'on veut qu'ils travaillent moins?
Alors, il y aura des débats télévisés entre vous et les représentants de la NUPES.
Invitez-moi, je dirai à tous les débats télévisés que vous souhaitez. Moi, j'aime faire de la politique.
Vous voyez, si ça ne s'est pas beaucoup incarné pour les Français, s'il y a eu une forme de désintérêt, c'est aussi par absence de débats publics, de débats à la télévision.
Eh bien, organisez les débats que vous souhaitez, je serai
ravi. Si Jean-Luc Mélenchon accepte... vous serez face à lui.
Moi, j'accepte tous les débats du moment qu'ils permettent de montrer quels sont les projets des uns et des autres et quels sont les meilleurs pour le pays.
Vous avez fait campagne, mais vous ne vous êtes pas représenté, puisque vous aviez prévenu, je fais 3 mandats à l'Assemblée nationale et puis c'est tout. 15 ans à l'Assemblée nationale, c'est bien ça.
Oui.
Mais rester à Bercy, c'était quoi? C'était un choix, une volonté, une exigence?
Je pense que la stabilité, surtout dans les sujets économiques, financiers, c'est bon. Et par ailleurs, je trouve que quitter le navire quand ça commence à tanguer très fort, c'est quand même une drôle d'idée. Ça tangue très fort dans l'économie. Je n'ai pas caché il y a plusieurs mois que le plus difficile était devant nous. Je l'ai dit au mois de janvier. Nous sommes aujourd'hui au mois de juin. Nous sommes dans le plus dur et le plus dur est encore là pour quelques mois. Soyons clairs. Quant aux législatives, ça explique peut-être pourquoi il y a parfois du désintérêt ou du mépris de nos compatriotes pour la scène politique. Si on ne tient pas parole, comment voulez-vous que nous soyons crédibles? Dès le premier mandat des élections législatives dans l'heure, et Dieu sait que j'aime mon territoire, je leur ai dit je ne ferai pas plus de 3 mandats. Parce qu'après, ça devient une rente de situation. Donc au bout du 3e mandat, j'ai dit voilà, j'ai promis ça il y a 15 ans, je tiens parole. Il y a une excellente députée, une excellente candidate. Mais pour ma part, après 3 mandats, je laisse la place à de nouveaux visages.
Vous restez avec nous, monsieur le ministre. D'autres sujets d'actualité à vous soumettre. D'abord, la story de Mohamed Bouabsi. Mohamed, vous avez passé l'après-midi avec une classe de CM1. CM2.
Oui, regardez, c'était cet après-midi au Sénat, des écoliers de 10 ans qui ont publié un abécédaire républicain. L'avant-propos est signé par Robert Badinter. Une rencontre entre 2 générations avec un thème au cœur des échanges, la laïcité.
Après d'avoir aboli la peine de mort, qu'avez-vous ressenti? La laïcité me tient à cœur car elle me permet de pratiquer la religion que je veux ou de n'en pratiquer aucune. Pourquoi est-elle si importante pour vous?
J'ai appris que vous avez vécu la guerre et j'aimerais votre opinion sur la guerre en Ukraine.
La justice est importante. Moi, je sais que vous étiez avocat. L'ABCDR nous a appris que la justice protège et respecte tout le monde. Pensez-vous avoir toujours été juste ?
Cette question, ça l'a fait rire. Robert Badinter, il a expliqué que ce n'était pas à lui de savoir s'il était juste ou pas, mais plutôt aux autres de le juger. Ce projet, il est né après l'assassinat de Samuel Paty, le 16 octobre 2020. Un message vidéo de Robert Badinter à destination des élèves et des professeurs est diffusé sur Internet. Peggy Kilofer tombe dessus. Cette enseignante depuis 20 ans en zone d'éducation prioritaire à Schiltigheim décide d'écrire un abécédaire avec ses élèves.
Travailler autour de ces concepts, travailler autour de la République, ça intéresse les enfants et dès leur plus jeune âge. Ils m'ont donné à voir vraiment toute leur curiosité et tout leur intérêt par rapport à ce travail et à ce projet qu'on a mené. Je suis assez ravie de voir qu'ils ont développé une véritable conscience citoyenne et vraiment une réflexion affinée par rapport à l'actualité. Et je les vois aussi grandir en ayant cette réflexion-là que je trouve finalement une réflexion rassurante pour les enseignants ou pour l'enseignante que je suis.
À la lettre E, égalité, définition des écoliers. Être égaux, c'est avoir les mêmes droits malgré nos différences. À la lettre L, laïcité, ça veut dire quoi pour vous les enfants ?
La laïcité, c'est impossible d'être égaux. Et puis ce serait compliqué, ça créerait des frontières entre nous.
Pour moi, c'est très important parce que ça ne privilégie aucune religion. Et c'est important pour être ensemble aussi et... se respecter.
C'est ce qui nous permet de vivre ensemble et ce qui nous permet aussi l'entraide et de pouvoir jouer avec des personnes ou aimer des personnes qui ne sont pas forcément de la même religion que nous.
Dans cette classe de 23 élèves de l'école Jean Mermoz, on ne parle pas seulement de la laïcité, Bruno Le Maire, on parle aussi des questions d'actualité.
Hier en Ukraine, c'est important d'en parler pour pas que ça se reproduise, parce que c'est quand même assez grave d'attaquer un pays alors qu'il n'a pas vraiment fait quelque chose, juste parce qu'on dit qu'il nous appartient. En parler, c'est un peu comme si on empêchait les autres de commettre des erreurs que nous, on ne voudrait pas qu'ils commettent.
C'est bien de savoir ce qui se passe dans le monde, parce que si tu ne sais rien, tu sais rien. C'est mieux de savoir que de rien savoir.
Lynn, Maël, Jacques...
La vérité sort de la bouche des enfants.
Toujours. Lynn, Maël, Jacques, Colline ont pu visiter le Sénat, découvrir le bureau de Napoléon Bonaparte et croiser le président Gérard Larcher. Pour lui, la laïcité, c'est une valeur qu'il faut protéger au quotidien.
Vous avez vu comment ils insistaient sur la laïcité. Parmi les questions cet après-midi, quatre questions sur cette question de la laïcité, qui n'est pas... Le refus de la religion de l'autre, le droit de croire ou de ne pas croire, ça nous renvoie, en entendant Robert Badinter leur répondre, je pensais à ces mots d'Aristide Briand sur la loi de 1905. C'est une loi de liberté.
Très ému, Robert Badinter a enchaîné les selfies avec les enfants. Il a même demandé une faveur aux écoliers qui lui dédicassent tous son abécédaire. Pour lui, la laïcité.
C'est un des fondements de la République. Là où il n'y a pas de respect de la laïcité, là où on devient prisonnier d'une idéologie particulière, il n'y a pas de possibilité de fraternité ni de liberté.
Vous estimez qu'elle est en danger, la laïcité, aujourd'hui dans notre société ?
Moins qu'on le dit, plus que je ne le voudrais.
On le voit sur cette élection législative, Bruno Le Maire, entre le débat qui se cristallise sur certaines propositions, je pense à Grenoble avec le Burkini, vous estimez que la laïcité est en danger dans notre pays ?
Moi, je reprendrai exactement les mots de Robert Badinter, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, moins qu'on ne le dit et plus que je ne le souhaiterais. La laïcité, c'est une singularité française, c'est le cœur de l'universalité française. La liberté de croire, de ne pas croire, et de dissocier le citoyen entre ses convictions intimes et sa pratique de citoyen qui ne proclame pas sa religion tous les quatre matins. C'est essentiel à la cohésion de la nation. Quand je dis moins que je ne le souhaiterais, c'est qu'on voit ici ou là, y compris dans ma circonscription, des montées de communautarisme qui doivent être combattues avec beaucoup, beaucoup de fermeté.
Merci beaucoup Mohamed Bouabsi. Tout de suite, c'est le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Mathieu qui arrive en courant, il devait être un peu plus loin que prévu. Là, c'est bien la première fois que ça.
C'est la chronique de Mohamed qui était trop courte.
J'entends un bruit, il arrive. C'est comme au théâtre ce soir.
m'excuser.
Mais tu fais où? Eh ben, petite feuille.
J'étais un peu éloigné.
Mais t'étais où? Non, mais c'est pas possible.
J'essaie de voir si j'étais capable de changer un joint de culasse.
Et la réponse est
non. La réalité, c'est que j'ai couru. Pierre, voilà, les grands professionnels. Pierre sait que j'ai couru et qu'il faut reprendre son souffle. J'ai vu le jingle du 5 sur 5 un peu loin. Donc. J'ai eu un peu peur.
Et eh ben c'est une première. Et heureusement que la fin de l'année.
Un long lancement.
Ah ben oui, c'était tout de suite le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Mathieu, on revient sur les événements qui ont gâché la finale de la Ligue des Champions, Liverpool-Real Madrid. C'était le 28 mai au Stade de France.
Le préfet Didier Lallement reconnaît un échec. Après les ministres de l'Intérieur et la ministre des Sports la semaine dernière, une nouvelle série d'auditions aujourd'hui devant le Sénat, devant les commissions des lois et de la culture. Didier Lallement assume sa responsabilité et donc son échec.
En tant que préfet de police, je suis le seul responsable opérationnel de l'ordre et de la sécurité publique sur l'agglomération parisienne. J'assume donc en totalité la responsabilité de la gestion policière de la journée du samedi 28 mai. C'est à l'évidence un échec. Mais je dois insister au-delà de cet échec sur le fait que face à une crise d'ampleur, dans un contexte dégradé et difficile, nous avons fait en sorte que le match se tienne et surtout, surtout, qu'il n'y ait aucun blessé grave et aucun mort.
Exercice de contrition du préfet de police de Paris qui soutient toutefois ses effectifs et qui, à la fin de l'audition, a sans doute commencé à perdre un peu patience.
Vous l'avez dit de manière très nette, vous n'éludez pas vos responsabilités. Vous dites à l'évidence c'est un échec. Quelles conséquences en tirez-vous à titre personnel?
Merci de vous soucier de ma situation personnelle. Je ne suis pas sûr que ce soit le sujet, mais je vous y répondrai en privé si vous le souhaitez. Mais quelle importance ma situation personnelle? Mais enfin, franchement, je suis un haut fonctionnaire, je suis révocable ad notum tous les mercredis. C'est quoi votre problème, quoi?
Après le préfet, c'est la Fédération française de football qui était auditionnée et les sénateurs ont relevé des contradictions. Le préfet Didier Lallement assurait avoir donné l'ordre de se focaliser sur les mouvements de foule de supporters aux abords du stade. Ce n'est pas tout à fait ce qu'a dit la directrice générale de la Fédération.
La présence très importante de ces délinquants a obligé les forces de l'ordre à intervenir à de très nombreuses reprises. Mais cela les a détournés de leur mission de sécurisation des points de préfiltrage et des accès aux portes du stade.
Il me semble noter une petite contradiction entre ce que vous dites et ce que nous a dit le préfet de police ce matin. On a besoin de comprendre. Deux avis différents, deux positions différentes pour des gens qui ont travaillé ensemble pour organiser cet événement. Ce n'est pas suffisamment clair.
À suivre donc, puisque les membres de la Fédération française de football n'ont pas répondu finalement à cette remarque. Et puis enfin, des supporters témoignés aussi, parmi lesquels Steve Rotherham, c'est le maire de la métropole de Liverpool. Un profil particulier, il y a 30 ans, il a vécu le drame de Sheffield qui a endeuillé le club. 97 supporters y avaient perdu la vie. Au Stade de France, lui-même s'est fait détrousser. Depuis la finale de la Ligue des Champions, il met en cause les forces de l'ordre françaises. Gérald Darmanin en personne.
Monsieur le ministre Darmanin, who expected trouble and expected hooligans. I watched some police running aimlessly, in all honesty, looking for trouble and not being able to find any, and then regrouping and cracking a few people with batons drawn. But there was no trouble.
Pour le maire de la métropole de Liverpool, en contradiction avec les autorités françaises, c'est grâce au sang-froid, je le cite, des supporters qu'il n'y a pas eu de drame, pas grâce aux forces de l'ordre. Et puis à l'occasion de ces auditions, on a également appris que les images de vidéosurveillance du Stade de France ont été détruites, à défaut d'avoir été réclamées par la justice dans un délai de 7 jours. Certains parlent de scandale, ça n'a pas été réclamé dans le délai normal de 7 jours. C'est quand même au moins cocasse, si ce n'est limite, Bruno Le Maire, non?
D'abord, je pense que c'est bien que le préfet de police ait reconnu que c'est un échec. C'est un échec collectif, c'est un échec pour nous, c'est un échec qui ternit l'image de la France. Donc c'est un échec qui est regrettable, qui justifie des excuses. Moi, je renouvelle les excuses que j'ai déjà faites pour tous les supporters qui ont été lésés. Ils venaient pour une fête et finalement, ils se sont retrouvés pris dans cette violence et dans une situation qui n'était pas souhaitable. Ensuite, il y a une enquête. Donc, je ne vais pas me prononcer, les bandes vidéo, je n'en sais rien, je ne suis pas responsable de l'enquête.
Ça va être plus compliqué quand même.
Mais c'est bien qu'il y ait une enquête parlementaire, c'est essentiel que cette enquête parlementaire aille jusqu'au bout, qu'il y ait ses auditions, qu'il y ait l'enquête judiciaire, l'enquête de police, puis on verra ce que diront ces enquêtes en toute transparence. Je ne vais pas me prononcer, un jour ce sera les vidéos, un jour ce sera autre chose.
Il y a des preuves qui ont été détruites en fait.
Oui, mais je n'en sais rien. Est-ce qu'elles ont été détruites volontairement, pas volontairement ? Je n'en sais rien. Et je pense que si on veut que la parole politique garde un tout petit peu de crédibilité, il faut savoir se taire sur ce qu'on ne sait pas.
Il est toujours question des forces de l'ordre et notamment de la mort de la passagère d'un véhicule visé par des policiers le week-end dernier à Paris.
Une morte et un blessé grave, le bilan d'un contrôle de police samedi pour défaut de port de ceinture de sécurité. Vous le savez, le véhicule a tenté de prendre la fuite devant un refus d'obtempérer. Les policiers ont ouvert le feu sur une voiture. Ils affirment, eux, que le conducteur a foncé sur l'équipage de policiers. Le conducteur a été grièvement blessé. La passagère avant est morte le lendemain. Le conducteur a été placé en garde à vue mardi pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Les trois policiers sont ressortis libres de leur garde à vue. Une information judiciaire est ouverte à leur encontre.
Les policiers ne tirent pas sur un refus d'obtempérer, les policiers tirent pour défendre leur vie.
Ça, je comprends très bien, mais pourquoi pas tirer dans les pneus ou le bloc moteur, madame, pour bloquer la voiture ?
Ça, c'est une vue d'esprit de personnes qui ne connaissent rien à rien, et c'est normal, c'est pas votre boulot. Si vous avez un véhicule qui est lancé, qui va même à 30 km/h, hein, ça va très très vite, une voiture, c'est une tonne. Hein. La seule arme aujourd'hui qui peut arrêter un véhicule définitivement, c'est un lance-roquettes. Voilà.
Bonsoir Maître Marie Violeau, vous êtes l'avocate d'Inès, c'est l'une des passagères du véhicule, elle était à l'arrière. Votre cliente reconnaît les torts qu'a pu avoir le conducteur, mais en revanche, pour elle, il n'y avait pas lieu de tirer, d'ouvrir le feu sur le véhicule.
C'est ce qu'elle a dit lorsqu'elle a été interviewée sur France Info, et ça a été énormément repris, mais c'est, je crois, d'abord ce qu'elle a dit aux officiers de police qui l'ont interrogée. Elle a été interrogée deux fois par l'IGPN et par les policiers en charge de l'enquête. Elle ne comprend pas comment sa copine a pu mourir d'une balle dans la tête, une balle qui a été tirée par des fonctionnaires de police, parce que sa copine n'a pas commis de refus d'obtempérer. Mmh. Alors elle s'interroge.
Pour être précis sur cette affaire, les deux jeunes filles se connaissaient, elles ne connaissaient pas forcément les deux autres passagers, elles venaient de se rencontrer, ils les déposaient chez elles. Elle, Inès, qu'est-ce qu'elle a entendu de l'intérieur du véhicule ? Quels ordres de la police ? Quelles sommations éventuellement ?
Alors elle dit qu'elle n'a rien entendu. Elle dit qu'elle a entendu un bruit extrêmement sourd, qui est le bruit des vitres qui ont éclaté sous les armes des policiers. Voilà ce qu'elle dit. Après, l'enquête dira s'ils ont effectué une sommation légale. Moi, je n'en sais rien. Je pense qu'on est aujourd'hui au stade plus des interrogations que des affirmations. Elle dit qu'elle n'a pas entendu d'autre chose que les vitres qui explosent.
Rien d'autre que les vitres qui explosent. Est-ce que le conducteur a foncé sur les policiers, selon elle ?
Alors, elle a dit, c'est encore une fois ses déclarations.
Bien sûr.
Elle dit qu'elle ne s'est pas rendue compte que le conducteur fonçait sur les policiers. Elle considère qu'il y a eu un refus d'obtempérer. C'est une chose de refuser d'obtempérer, c'en est une autre d'essayer d'attenter à la vie de policiers. Elle dit qu'il n'y a pas du tout de tentative d'homicide sur les policiers. Voilà ce qu'elle dit.
Dans ce dossier, il faut le noter, pour la famille de la passagère tuée, l'amie d'Inès, le conducteur est aussi en faute, la famille a déposé plainte contre le conducteur. Est-ce que vous aussi, Inès, est-ce que vous allez le poursuivre, le conducteur ?
Alors, nous, on ne poursuit pas. C'est aujourd'hui assez simple. Il y a une information judiciaire qui a été ouverte. L'information judiciaire, elle est ouverte sur certaines qualifications pénales. Nous, on s'est joint à cette information judiciaire en se constituant partie civile. On considère que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le tir des policiers. Chercher une responsabilité indirecte vis-à-vis du conducteur, ce n'est pas notre sujet, ce sera celui de l'information judiciaire et l'enquête va permettre de déterminer s'il y a d'autres
responsabilités. Mais elle ne se dit pas, comme la famille de la passagère tuée, qu'il les a mises en danger. On sait qu'il est défavorablement connu des services de police, qu'il a refusé d'obtempérer, que dans ce scénario-là, il l'a mise en danger.
Il l'a mise en danger, mais sauf erreur de ma part, ce n'est pas, l'attitude du conducteur qui a fait que sa copine s'est pris une balle en pleine tête. S'il y avait des sujets de cet ordre-là, à chaque fois que quelqu'un refusait d'obtempérer, je pense que ça se saurait. Heureusement que ça ne se passe pas comme ça à chaque fois. Elle considère que le conducteur n'a pas... aurait peut-être pu s'arrêter. D'ailleurs, je crois qu'elle dit qu'elle lui a demandé de s'arrêter à plusieurs reprises. Maintenant, ça s'arrête là.
Ça s'arrête là, si tant est qu'il n'a pas foncé sur les policiers. Vous avez déjà répondu là-dessus. Aujourd'hui, Emmanuel Macron était en déplacement dans le Tarn, un déplacement sur le thème de la sécurité. Je vous propose d'en écouter un tout petit extrait.
Chose que, de là où je suis, je ne peux pas accepter. C'est qu'on insulte celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre. Nous devons absolument défendre nos gendarmes comme nos policiers. Et je voulais aujourd'hui, avec vous, assurer les gendarmes du Tarn, mon colonel, mon général, et à travers eux l'ensemble des forces de sécurité intérieure, de ma fidèle reconnaissance et de celle de toute la nation.
Bruno Le Maire, les mots du président de la République, ils font suite, à, peut-être pas à l'affaire en elle-même, mais aux polémiques et aux débats qui ont pu suivre. On pense notamment à Jean-Luc Mélenchon qui a dit « la police tue ».
Elle fait suite à la récupération politicienne que je trouve révoltante, qui a été faite par Jean-Luc Mélenchon de cette affaire. Cette affaire, c'est un drame, il y a une jeune femme qui est morte. Donc laissons la justice, là encore, faire son travail plutôt que d'intervenir, de rajouter de la douleur à la douleur en faisant de la récupération politicienne. La police, elle nous protège, elle mérite notre respect, elle mérite notre soutien. Et je trouve vraiment regrettable qu'en pleine campagne électorale, on fasse de la récupération politicienne sur ce sujet.
Votre cliente sur France Info, vous le citiez tout à l'heure, a dit oui, d'une certaine manière se réjouir aussi que ce soit un débat politique aujourd'hui.
Alors, je ne sais pas si elle se réjouit que ce soit un débat politique. Elle se réjouit de peu de choses aujourd'hui. Ça, je peux vous l'affirmer. En revanche, se pose la question. Moi, je suis avocat. J'accompagne ma cliente. Je la conseille en tant qu'avocat. Je ne suis pas là pour donner mon opinion sur tel ou tel propos tenu par un homme politique. En revanche, et elle et moi, on est parfaitement d'accord sur ce point-là. Je crois qu'il y a une interrogation qui doit se poser sur la loi de 2017 et l'usage qui est fait par... les policiers des armes à feu. Enfin, nous considérons aujourd'hui qu'il faut peut-être regarder la loi de plus près et éventuellement la changer. La changer parce qu'elle est assez imprécise. Et c'est ça qui fait que
c'est
les policiers
flou
sont
qui
un peu perdus.
Éventuellement, peut entraîner ce genre d'action disproportionnée. On ne dit pas que c'est le cas là, mais c'est cette question-là que vous soulevez aujourd'hui.
En tout cas, la question, aujourd'hui, on a une femme de 21 ans, parfaitement innocente, qui s'est pris une balle dans la tête. Vous savez, les policiers, quand ils sont très correctement formés, quand ils savent utiliser leurs armes à feu, ils savent aussi viser. Là, il y a eu une erreur, vraisemblablement, sur la personne qui était visée, il y a eu une erreur sur la partie du corps qui était visée. Alors, est-ce que cette loi est la bonne? Est-ce que les forces de police sont perdues? Est-ce qu'elles méritent d'être formées un peu mieux? Ça, c'est une question qui se pose. Nous, on ne dénonce pas l'ensemble de l'institution policière, pas du tout. On dénonce des faits et on voudrait que l'enquête puisse apporter la manifestation de la vérité, ce à quoi on va contribuer par les dépositions d'Inès.
Merci beaucoup, Maître Marie Violot, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir sur le plateau de C'est à vous. Mathieu, après le discours de Matthew McConaughey hier à la Maison-Blanche, on revient à nouveau ce soir sur la tuerie d'Uvalde.
Oui, le Congrès américain recueillait de nouveaux témoignages après la tuerie aux 21 morts, dont 19 enfants au Texas, des témoignages de victimes, de rescapés ou de leurs proches, à commencer par un récit poignant, celui d'une fillette de 11 ans qui raconte d'abord ce qu'elle a vu et surtout comment elle a survécu.
My teacher tonight and shot her in the head. He shot my friend that was next to me, and I thought he was gonna come back to the room, so I grabbed the blood and put it all over me.
Les parents d'une autre fillette à présent qui, elle, n'a pas survécu, ils réclament aujourd'hui des mesures concrètes.
I don't want you to think of Lexi as just a number. She was intelligent, compassionate and athletic. Somewhere out there, there is a mom listening to our testimony, thinking, I can't even imagine their pain, not knowing that our reality will one day be hers, unless we act now. So today, we stand for Lexi, and as her voice, we demand action. We seek a ban on assault rifles and high-capacity magazines.
Des témoignages tous difficiles à entendre, il y en a eu beaucoup, les enfants qui ont vécu l'horreur, les parents qui ont perdu un enfant, puis il y a un enseignant aussi qui prenait la parole ces derniers jours. Il fait partie des survivants de la tuerie et il en veut aux policiers du Valdé qui, selon lui, ont tardé à intervenir.
Officer, we're in here. But they had already left. I get more angry because you have a bulletproof vest. I had nothing. you're supposed to protect and serve. There is no excuse for their actions, and I will never forget them.
Cet enseignant survivant qui a perdu 11 de ses élèves dans le massacre de Valdé.
Retour en France avec la question du pouvoir d'achat évoquée précédemment avec le ministre de l'économie et des finances. Il est question d'inflation et des magasins de hard discount. On ouvre désormais une page sur le low cost dans le textile et l'habillement.
Oui, un anglicisme en remplace un autre. L'équivalent du hard discount dans la mode, ça s'appelle la fast fashion. Vous avez évoqué les Lidl, Aldi ou autres. Si vous n'êtes pas encore client, je vous présente une autre enseigne, Shein, géant chinois de la vente en ligne, qui bombarde de milliers de nouvelles références tous les jours. Des milliers de nouvelles références chaque jour, ouais, pour un prix moyen autour de 7 euros, tout produit confondu. Concurrence déloyale, on va poser la question, mais d'abord un témoignage. Louis Amar et Camille Schmitt sont allés interroger Laina, une cliente Shein d'une vingtaine d'années.
Ça a commencé quand j'ai fait mon petit tour dans les magasins, dans un centre commercial, et que j'ai vu des pièces qui me plaisaient et que je les ai retrouvées sur le site internet avec des prix vraiment différents, mais énormément différents. La qualité est la même. Et on retrouve la même tenue de vêtements et la même durabilité du vêtement. Là, on a les deux pour 21,99€. Et il y a toujours des promotions sur Shein. Alors que sur des enseignes beaucoup plus connues, juste la veste, on la paye 79,95€. Le nombre de vêtements que je pourrais m'acheter juste en mettant le prix d'une seule veste, ça me permet, en fonction de mes moyens, de pouvoir m'habiller comme moi je l'entends et pas en fonction de ce que je peux me permettre. Tout augmente. Et du coup, en fait, quand on a un budget qui n'est pas extrême et qu'on veut quand même se faire plaisir, on est obligé forcément de se rabattre vers des sites comme ça parce que c'est beaucoup plus attractif en fait.
Et dans le même temps, on apprend les difficultés d'enseignes plus connues sur le territoire français. CEA qui va fermer deux magasins à Paris cette année, 145 emplois menacés. Pimki aussi, l'enseigne de prêt-à-porter féminin du groupe Muliez est à vendre. Là, ce sont 232 magasins et 1500 emplois qui sont en jeu. Louis Amar et Audrey Payas sont allés en boutique, interroger une représentante syndicale de Pimki sur cette concurrence venue d'Asie.
Cette robe-là, par exemple, c'est la moins chère, c'est votre entrée de gamme.
Entrée de gamme, donc elle est à 12,99€. Donc là, actuellement, elle est en promotion, mais son prix de gamme, c'est 12,99€. Et en effet, sur les sites dont on parlait, donc les sites asiatiques, Chine, ainsi de suite, bah, vous l'avez à 5€ au maximum pour une qualité qui est, on va dire, pareille, malheureusement. Le seul avantage de venir la chercher chez nous, c'est que vous l'avez tout de suite.
Donc la dizaine d'euros de différence, finalement, c'est la marge de la marque.
Oui, c'est ça. C'est tous les intermédiaires qui sont, puisqu'en fait, nous, quand on va acheter, c'est-à-dire qu'on va avoir le fournisseur, le loyer, les salaires, et ainsi de suite. Donc tout ça, bah, forcément, il faut avoir des prix plus élevés chez nous pour pouvoir compenser en fait, toute cette chaîne qui fait que ça arrive aux mains de la cliente en direct.
Alors pour ne pas avoir l'air de faire que de la pub à Shein, précisons toutefois que des ONG dénoncent les conditions de travail en Chine derrière cette enseigne. Une autre organisation estime aussi que Shein représente désormais 22% des émissions de CO2 des adolescentes françaises. Bruno Le Maire, cette dame qui est représentante syndicale chez Pimki, nous demandait hors caméra quand est-ce qu'on va taxer ce qui vient d'Asie. Ça fait des années qu'on parle de protectionnisme, de Made in France. Faut taxer, dénoncer Shein ?
Alors on va le faire déjà pour des produits qui ne sont pas des produits vestimentaires, mais on va le faire pour le ciment, on va le faire pour l'acier. Ça s'appelle la taxe carbone aux frontières. C'est une des victoires françaises, une des victoires du président de la République pendant la présidence française de l'Union européenne. Moi, je serais effectivement curieux de savoir quelles sont les conditions sociales de réalisation de ces produits, quelles sont les conditions environnementales. Tout le monde dit la voiture, ça pollue, les camions, ça pollue. Mais ce qui pollue encore plus, c'est le textile.
Il vous reste 30 secondes pour conclure, Bruno Le Maire.
Tout ça pour dire que ça mérite effectivement qu'on regarde dans quelles conditions sont réalisés ces produits avec des prix qui soient aussi bas, puis qu'on n'oublie pas que sur le textile, notamment les textiles techniques, des textiles haut de gamme, la France a aussi une industrie textile qui peut redevenir puissante et qu'on a les moyens, nous, d'avoir une industrie textile qui réussit aussi bien et qui soit créatrice d'emplois.
Voilà qui s'ajoute à votre feuille de route. Merci Bruno Le Maire d'avoir accepté notre invitation. Merci Maître Marié Violo. Tout de suite, le dîner de C'est à vous avec les humoristes de France Inter. On vous attend. À tout de suite.